Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Pour cette première émission de juin 2010, nous céderons la parole à notre sœur Gisèle Évrard de la Fédération Spirite de la province de Liège, avec qui nous continuerons la lecture du livre de la Genèse. Nous terminerons par divers communiqués de nos partenaires et notamment par l'agenda des activités programmées pour les mois à venir. Nous devons également de vous rappeler que vous avez la possibilité de laisser vos commentaires sur le contenu de nos émissions et ceci directement sur le site de Radio Kardec. À toutes et à tous, nous vous souhaitons une très bonne écoute. Aujourd'hui, notre sœur Gisèle nous invite à poursuivre la lecture de la Genèse selon le spiritisme, suite du chapitre 14 traitant des fluides, obsession et possession, du point 47 à 49, ainsi que les miracles de l'Évangile. Chapitre 15, supériorité de la nature de Jésus, points 1 et 2.
La Genèse selon le spiritisme, suite du chapitre 14, les fluides, obsession et possession, suite. Point 47. Dans l'obsession, l'esprit agit extérieurement à l'aide de son périsprit, qu'il identifie avec celui de l'incarné. Ce dernier se trouve alors enlacé, comme dans un réseau, et contraint d'agir contre sa volonté. Dans la possession, au lieu d'agir extérieurement, l'esprit libre se substitue, pour ainsi dire, à l'esprit incarné. Il fait élection de domicile dans son corps, sans cependant que celui-ci le quitte définitivement, ce qui ne peut avoir lieu qu'à la mort. La possession est donc toujours temporaire et intermittente, car un esprit désincarné ne peut prendre définitivement le lieu et place d'un esprit incarné, attendu que l'union moléculaire du périsprit et du corps ne peut s'opérer qu'au moment de la conception. Entre parenthèses, voir chapitre 11, numéro 18. Fermez la parenthèse. L'esprit, en possession momentanée du corps, s'en sert comme du sien propre. Il parle par sa bouche, voit par ses yeux, agit avec ses bras, comme il l'eût fait de son vivant. Ce n'est plus comme dans la médiumnité parlante, où l'esprit incarné parle en transmettant la pensée d'un esprit désincarné. C'est ce dernier lui-même qui parle et qui agit. Et si on l'a connu de son vivant, on le reconnaît à son langage, à sa voix, à ses gestes et jusqu'à l'expression de sa physionomie. Point 48. L'obsession est toujours le fait d'un esprit malveillant. La possession peut être le fait d'un bon esprit qui veut parler et, pour faire plus d'impression sur ses auditeurs, emprunte le corps d'un incarné, que celui-ci lui prête volontairement comme on prête son habit. Cela se fait sans aucun trouble ni malaise, et pendant ce temps, l'esprit se trouve en liberté comme dans l'état d'émancipation, et le plus souvent, il se tient à côté de son remplaçant pour l'écouter. Quand l'esprit possesseur est mauvais, les choses se passent autrement. Il n'emprunte pas le corps, il s'en empare si le titulaire n'est pas de force morale à lui résister. Il le fait par méchanceté envers celui-ci, qu'il torture et martyrise de toutes les manières, jusqu'à vouloir le faire périr, soit par la strangulation, soit en le poussant dans le feu ou autres endroits dangereux. Se servant des membres et des organes du malheureux patient, il blasphème, il injurie et maltraite ceux qui l'entourent. Il se livre à ses excentricités et à des actes qui ont tous les caractères de la folie furieuse. Les faits de ce genre, à différents degrés d'intensité, sont très nombreux et beaucoup de cas de folie n'ont pas d'autre cause. Souvent, il s'y joint des désordres pathologiques qui ne sont que consécutifs et contre lesquels les traitements médicaux sont impuissants, tant que subsiste la cause première. Le spiritisme, en faisant connaître cette source d'une partie des misères humaines, indique le moyen d'y remédier. Ce moyen est d'agir sur l'auteur du mal, qui, étant un être intelligent, doit être traité par l'intelligence. Remarque. Exemple de cure d'obsession et possession. Voir Revue Spirit de décembre 1863, page 373. Revue Spirit de janvier 1864, page 11, Revue Spirit de juin 1864, page 168, Revue Spirit de janvier 1865, page 5, de juin 1865, page 172, de février 1866, page 38, et de juin 1867, page 174. Fin de la remarque. Point 49. L'obsession et la possession sont le plus souvent individuelles, mais parfois elles sont épidémiques. Lorsqu'une nuée de mauvais esprits s'abat sur une localité, c'est comme lorsqu'une troupe d'ennemis vient l'envahir. Dans ce cas, le nombre d'individus atteints peut être considérable. Remarque. C'est une épidémie de ce genre qui sévit depuis quelques années dans le village de Morzine, en Savoie. Entre parenthèses, voir la relation complète de cette épidémie dans la revue Spirit de décembre 1862, page 353, ainsi que de janvier, février, avril et mai 1863, page 1, 33, 133. Fin de la remarque. Chapitre 15. Les miracles de l'Évangile. Supériorité de la nature de Jésus. Point 1. Les faits rapportés dans l'Évangile et qui ont été jusqu'ici considérés comme miraculeux appartiennent, pour la plupart, à l'ordre des phénomènes psychiques, c'est-à-dire de ceux qui ont pour cause première les facultés et les attributs de l'âme. En les rapprochant de ceux qui sont décrits et expliqués dans le chapitre précédent, on reconnaît sans peine qu'il y a entre eux identité de cause et d'effet. L'histoire en montre d'analogue dans tous les temps et chez tous les peuples, par la raison que, depuis qu'il y a des âmes incarnées et désincarnées, les mêmes effets ont dû se produire. On peut, il est vrai, contester sur ce point la véracité de l'histoire, mais aujourd'hui, ils se produisent sous nos yeux, pour ainsi dire à volonté, et par des individus qui n'ont rien d'exceptionnel. Le fait seul de la reproduction d'un phénomène, dans des conditions identiques, suffit pour prouver qu'il est possible et soumis à une loi, et que dès lors, il n'est pas miraculeux. Le principe des phénomènes psychiques repose, comme on l'a vu, sur les propriétés du fluide périsprital qui constitue l'agent magnétique. Sur les manifestations de la vie spirituelle pendant la vie et après la mort, enfin sur l'état constitutif des esprits et leur rôle comme force active de la nature. Ces éléments connus et leurs effets constatés, ils ont pour conséquence de faire admettre la possibilité de certains faits que l'on rejetait alors qu'on leur attribuait une origine surnaturelle. Point 2. Sans rien préjuger sur la nature du Christ, qu'il n'entre pas dans le cadre de cet ouvrage d'examiner, en ne le considérant par hypothèse que comme un esprit supérieur, on ne peut s'empêcher de reconnaître en lui un de ceux de l'ordre le plus élevé, et qu'il est placé par ses vertus bien au-dessus de l'humanité terrestre. Par les immenses résultats qu'elle a produits, son incarnation en ce monde ne pouvait être qu'une de ces missions qui ne sont confiées qu'aux messagers directs de la divinité pour l'accomplissement de ses desseins. En supposant qu'il ne fût pas Dieu lui-même, mais un envoyé de Dieu, pour transmettre sa parole, il serait plus qu'un prophète, car il serait un Messie divin. Comme homme, il avait l'organisation des êtres charnels, mais comme esprit pur, détaché de la matière, il devait vivre de la vie spirituelle plus que de la vie corporelle, dont il n'avait point les faiblesses. La supériorité de Jésus sur les hommes ne tenait point aux qualités particulières de son corps, mais à celles de son esprit, qui dominait la matière d'une manière absolue, et à celle de son périsprit, puisé dans la partie la plus quintessentielle des fluides terrestres. Entre parenthèses, voir chapitre 14, numéro 9. Fermez la parenthèse. Son âme ne devait tenir au corps que par les liens strictement indispensables. Constamment dégagée, elle devait lui donner une double vue non seulement permanente, mais d'une pénétration exceptionnelle et bien autrement supérieure à celle que l'on voit chez les hommes ordinaires. Il devait en être de même de tous les phénomènes qui dépendent des fluides périspiritaux ou psychiques. La qualité de ces fluides lui donnait une immense puissance magnétique, secondée par le désir incessant de faire le bien. Dans les guérisons qu'il opérait, agissait-il comme médium? Peut-on le considérer comme un puissant médium guérisseur? Non, car le médium est un intermédiaire, un instrument dont se servent les esprits désincarnés. Or, le Christ n'avait pas besoin d'assistance, lui qui assistait les autres. Il agissait donc par lui-même, en vue de sa puissance personnelle, ainsi que peuvent le faire les incarnés dans certains cas, et dans la mesure de leur force. Quel esprit d'ailleurs eût osé lui insuffler ses propres pensées et le charger de les transmettre? S'il recevait un influx étranger, ce ne pouvait être que de Dieu. Selon la définition donnée par un esprit, il était médium de Dieu.
Poursuivons notre lecture du jour, par la suite du 15e chapitre de la Genèse, traitant des miracles de l'Évangile, les songes, point 3, et de la vocation de Pierre, André, Jacques, Jean et Matthieu, point 9.
La Genèse selon le spiritisme, suite du chapitre 15, les miracles de l'Évangile. Songe, point 3. Joseph, dit l'Évangile, fut averti par un ange qui lui apparut en songe et lui dit de fuir en Égypte avec l'enfant. Entre parenthèses, Saint Matthieu, chapitre 2, versets de 19 à 23. Fermez la parenthèse. Les avertissements par songe jouent un grand rôle dans les livres sacrés de toutes les religions. Sans garantir l'exactitude de tous les faits rapportés et sans les discuter, le phénomène en lui-même n'a rien d'anormal quand on sait que le temps du sommeil est celui où l'esprit, se dégageant des liens de la matière, rentre momentanément dans la vie spirituelle où il se retrouve avec ceux qu'il a connus. C'est souvent ce moment que choisissent les esprits protecteurs pour se manifester à leurs protégés et leur donner des conseils plus directs. Les exemples authentiques d'avertissement par songe sont nombreux, mais il n'en faudrait pas inférer que tous les songes soient des avertissements, et encore moins que tout ce qu'on voit en rêve a sa signification. Il faut ranger parmi les croyances superstitieuses et absurdes l'art d'interpréter les songes. Entre parenthèses, voir chapitre 14, numéro 27 et 28. Fermez la parenthèse. Étoile des mages, point 4. Il est dit qu'une étoile apparut aux mages qui vinrent adorer Jésus, qu'elle marcha devant eux pour leur indiquer la route et s'arrêta quand ils furent arrivés. Entre parenthèses, voir Saint Matthieu, chapitre 2, versets de 1 à 12. Fermez la parenthèse. La question n'est pas de savoir si le fait rapporté par Saint Matthieu est réel ou si ce n'est qu'une figure pour indiquer que les mages furent guidés d'une manière mystérieuse vers le lieu où était l'enfant, attendu qu'il n'existe aucun moyen de contrôle, mais bien si un fait de cette nature est possible. Une chose certaine, c'est que dans cette circonstance, la lumière ne pouvait être une étoile. On pouvait le croire à l'époque où l'on pensait que les étoiles sont des points lumineux attachés au firmament et qui peuvent tomber sur la terre, mais non aujourd'hui que l'on connaît leur nature. Pour n'avoir pas la cause qu'on lui attribue, le fait de l'apparition d'une lumière ayant l'aspect d'une étoile n'en est pas moins une chose possible. Un esprit peut apparaître sous une forme lumineuse ou transformer une partie de son fluide périsprital en un point lumineux. Plusieurs faits de ce genre, récents et parfaitement authentiques, n'ont pas d'autre cause, et cette cause n'a rien de surnaturel. Entre parenthèses, voir chapitre 14, numéro 13 et suivant. Fermez la parenthèse. Double vue. Entrée de Jésus à Jérusalem. Point 5. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagé, près de la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples et leur dit « Allez à ce village qui est devant vous et vous y trouverez en arrivant une ânesse liée et son ânon auprès d'elle. Déliez-la et me les amenez. Si quelqu'un vous dit quelque chose, dites-lui que le Seigneur en a besoin, et aussitôt il les laissera emmener. Or, tout ceci s'est fait afin que cette parole du prophète fût accomplie. Dites à la fille de Sion, « Voici votre roi qui vient à vous, plein de douceur, montez sur une ânesse et sur l'ânon de celle qui est sous le joug. » Entre parenthèses, Zacharie, chapitre 9, versets 9 et 10. Fermez la parenthèse. Les disciples s'en allèrent donc et firent ce que Jésus leur avait commandé. Et, ayant amené l'ânesse et l'ânon, ils les couvrirent de leurs vêtements et le firent monter dessus. Entre parenthèses, Saint Matthieu, chapitre 21, versets de 1 à 7. Fermez la parenthèse. Baiser de Judas. Point 6. Levez-vous, allons, celui qui doit me trahir est près d'ici. Il n'avait pas encore achevé ces mots que Judas, un des douze, arriva, et avec lui une troupe de gens armés d'épées et de bâtons, qui avaient été envoyés par les princes des prêtres et par les anciens du peuple. Or, celui qui le trahissait leur avait donné un signal pour le reconnaître en leur disant « Celui que je baiserai, c'est celui-là même que vous cherchez. Saisissez-vous de lui. » Aussitôt donc, il s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, je vous salue. » Et il le baisa. Jésus lui répondit, « Mon ami, qu'êtes-vous venu faire ici ?» Et en même temps, tous les autres, s'avançant, se jetèrent sur Jésus et se saisirent de lui. Entre parenthèses, Saint Matthieu, chapitre 24, versets de 46 à 50. Pêche miraculeuse. Point 7. Un jour que Jésus était sur le bord du lac de Génézareth, se trouvant accablé par la foule du peuple qui se pressait pour entendre la parole de Dieu, il vit deux barques arrêtées au bord du lac dont les pêcheurs étaient descendus et lavaient leurs filets. Il entra donc dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et le pria de s'éloigner un peu de terre. Et s'étant assis, il enseignait le peuple de dessus la barque. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avancez en pleine mer et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais néanmoins, sur votre parole, je jetterai le filet. » L'ayant donc jeté, ils prirent une si grande quantité de poissons que leur filet se rompit. Et ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils y vinrent et ils remplirent tellement leur barque qu'il s'en fallait peu qu'elle ne coulasse à fond. Entre parenthèses, Saint Luc, chapitre 5, versets de 1 à 7. Fermez la parenthèse. Vocation de Pierre, André, Jacques, Jean et Matthieu. Point 8. Or Jésus, marchant le long de la mer de Galilée, vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient leur filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils quittèrent leur filet et le suivirent. De là, s'avançant, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui raccommodaient leur filet, et il les appela. En même temps, ils quittèrent leur filet et leur père, et ils le suivirent. Entre parenthèses, Saint Matthieu, chapitre 4, versets de 18 à 22. Fermez la parenthèse. Jésus, sortant de là, vit en passant un homme assis au bureau des impôts nommé Matthieu, auquel il dit « Suivez-moi !» Et lui aussitôt se leva et le suivit. Entre parenthèses, Saint Matthieu, chapitre 4, verset 9. Fermez la parenthèse. Point 9. Ces faits n'ont rien de surprenant quand on connaît le pouvoir de la double vue et la cause très naturelle de cette faculté. Jésus la possédait au suprême degré. Et l'on peut dire qu'elle était son état normal, ce qu'atteste un grand nombre d'actes de sa vie et ce qu'expliquent aujourd'hui les phénomènes magnétiques et le spiritisme. La pêche, qualifiée de miraculeuse, s'explique également par la double vue. Jésus n'a point produit spontanément des poissons là où il n'en existait pas. Il a vu, comme aurait pu le faire un lucide éveillé, par la vue de l'âme, l'endroit où il se trouvait, il a pu dire avec assurance aux pêcheurs d'y jeter leur filet. La pénétration de la pensée et par suite certaines prévisions sont la conséquence de la vue spirituelle. Lorsque Jésus appelle à lui Pierre, André, Jacques, Jean et Matthieu, il fallait qu'il connût leur disposition intime pour savoir qu'ils le suivraient et qu'ils étaient capables de remplir la mission dont il devait les charger. Il fallait qu'eux-mêmes eussent l'intuition de cette mission pour s'abandonner à lui. Il en est de même lorsque, le jour de la scène, il annonce que l'un des douze le trahira et qu'il le désigne en disant que c'est celui qui met la main dans le plat et lorsqu'il dit que Pierre le renoncera. En maints endroits de l'Évangile, il est dit. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, il leur dit. Or, comment pouvait-il connaître leurs pensées si ce n'est à la fois par le rayonnement fluidique qui lui apportait cette pensée et la vue spirituelle qui lui permettait de lire dans le fort intérieur des individus? Alors, souvent qu'on croit une pensée profondément ensevelie dans les replis de l'âme, on ne se doute pas qu'on porte en soi un miroir qui la réfléchit, un révélateur dans son propre rayonnement fluidique qui en est imprégné. Si l'on voyait le mécanisme du monde invisible qui nous entoure, les ramifications de ces fils conducteurs de la pensée qui relient tous les êtres intelligents, corporels et incorporels, les effluves fluidiques chargés des empreintes du monde moral et qui, comme des courants aériens, traverse l'espace, on serait moins surpris de certains effets que l'ignorance attribue au hasard. Entre parenthèses, chapitre 14, numéro 15, 22 et suivant. Fermez la parenthèse.
Pour terminer sa lecture du jour, notre sœur Gisèle vous invite à suivre la suite du chapitre 15 traitant des miracles de l'Évangile. Guérison, perte de sang, du point 10 au point 17.
La Genèse selon le spiritisme. Suite du chapitre 15, les miracles de l'Évangile. Guérison, perte de sang. Point 10. Alors une femme, malade d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et qui, ayant dépensé tout son bien, n'en avait reçu aucun soulagement, mais s'en était toujours trouvée plus mal. Ayant entendu parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Au même instant, la source de sang qu'elle perdait fut séchée, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de cette maladie. Aussitôt Jésus, connaissant en lui-même la vertu qui était sortie de lui, se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui est-ce qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Vous voyez que la foule vous presse de tous côtés et vous demandez qui vous a touché. » Et il regardait tout autour de lui pour voir celle qu'il avait touchée. Mais cette femme, qui savait ce qui s'était passé en elle, étant saisie de crainte et de frayeur, vint se jeter à ses pieds et lui déclara toute la vérité. Et Jésus lui dit, « Ma fille, votre foi vous a sauvée. Allez en paix et soyez guérie de votre maladie. » Entre parenthèses, c'est Marc, chapitre 5, versets de 55 à 34. Fermez la parenthèse. Point 11. Ces paroles, connaissant en lui-même la vertu qui était sortie de lui, sont significatives. Elles expriment le mouvement fluidique qui s'opérait de Jésus à la femme malade. Tous les deux ont ressenti l'action qui venait de se produire. Il est remarquable que l'effet n'a été provoqué par aucun acte de la volonté de Jésus. Il n'y a eu ni magnétisation, ni imposition des mains. Le rayonnement fluidique normal a suffi pour opérer la guérison. Mais pourquoi ce rayonnement s'est-il dirigé vers cette femme plutôt que vers d'autres, puisque Jésus ne pensait pas à elle et qu'il était entouré par la foule? La raison en est bien simple. Le fluide, étant donné comme matière thérapeutique, doit atteindre le désordre organique pour le réparer. Il peut être dirigé sur le mal par la volonté du guérisseur ou attiré par le désir ardent, la confiance, en un mot la foi du malade. Par rapport au courant fluidique, le premier fait l'effet d'une pompe foulante et le second d'une pompe aspirante. Quelquefois, la simultanéité des deux effets est nécessaire, d'autres fois un seul suffit. C'est le second qui a eu lieu en cette circonstance. Jésus avait donc raison de dire « Votre foi vous a sauvé ». On comprend qu'ici, la foi n'est pas la vertu mystique telle que certaines personnes l'entendent, mais une véritable force attractive, tandis que celui qui ne l'a pas oppose au courant fluidique une force répulsive, ou tout au moins une force d'inertie qui paralyse l'action. D'après cela, on comprend que de deux malades atteints du même mal, étant en présence d'un guérisseur, l'un puisse être guéri et l'autre non. C'est là un des principes les plus importants de la médiumnité guérissante et qui explique, par une cause très naturelle, certaines anomalies apparentes. Entre parenthèses, chapitre 14, numéro 31, 32, 33. Fermez la parenthèse. Aveugle de Bethsaïde, point 12. Étant arrivé à Bethsaïde, on lui amena un aveugle qu'on le pria de toucher. Et, prenant l'aveugle par la main, il le mena hors du bourg. Il lui mit de la salive sur les yeux, et lui ayant imposé les mains, il lui demanda s'il voyait quelque chose. Cet homme, regardant, lui dit, « Je vois marcher des hommes qui me paraissent comme des arbres. » Jésus lui mit encore une fois les mains sur les yeux, et il commença à mieux voir. Et enfin, il fut tellement guéri qu'il voyait distinctement toutes choses. Il le renvoya ensuite dans sa maison et lui dit, « Allez-vous-en, en votre maison, et si vous entrez dans le bourg, n'y dites à personne ce qui vous est arrivé. » Entre parenthèses, Saint Marc, chapitre 8, versets de 22 à 26. Fermez la parenthèse. Point 13. Ici, l'effet magnétique est évident. La guérison n'a pas été instantanée, mais graduelle et par suite d'une action soutenue et réitérée, quoique plus rapide que dans la magnétisation ordinaire. La première sensation de cet homme est bien celle qu'éprouvent les aveugles en recouvrant la lumière. Par un effet d'optique, les objets leur paraissent d'une grandeur démesurée. Paralytique, point 14. Jésus, étant monté dans une barque, repassa le lac et vint dans sa ville. Entre parenthèses, Capharnaüm, fermez la parenthèse. Et comme on lui eut présenté un paralytique couché sur un lit, Jésus, voyant leur foi, dit à ce paralytique, « Mon fils, ayez confiance, vos péchés vous sont remis. » Aussitôt, quelques-uns des scribes dirent en eux-mêmes, « Cet homme blasphème !» Mais Jésus, ayant connu ce qu'ils pensaient, leur dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ? Car lequel est le plus aisé, ou de dire « Vos péchés vous sont remis » ou de dire « Levez-vous et marchez ?» Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de remettre les péchés, « Levez-vous, dit-il alors au paralytique, emportez votre lit et allez-vous-en dans votre maison. » Le paralytique se leva aussitôt et s'en alla en sa maison. Et le peuple, voyant ce miracle, fut rempli de crainte et rendit gloire à Dieu de ce qu'il avait donné une telle puissance aux hommes. Entre parenthèses, Saint Matthieu, chapitre 9, versets de 1 à 8. Fermez la parenthèse. Point 15. Que pouvaient signifier ces paroles « Vos péchés vous sont remis » et à quoi pouvaient-elles servir pour la guérison? Le spiritisme en donne la clé, comme d'une infinité d'autres paroles incomprises jusqu'à ce jour. Il nous apprend, par la foi de la pluralité des existences, que les maux et les afflictions de la vie sont souvent des expiations du passé et que nous subissons dans la vie présente les conséquences des fautes que nous avons commises dans une existence antérieure. Les différentes existences étant solidaires les unes des autres, jusqu'à ce qu'on ait payé la dette de ses imperfections. Si donc la maladie de cet homme était une punition pour le mal qu'il avait pu commettre, en lui disant « Vos péchés vous sont remis », c'était lui dire « Vous avez payé votre dette. La cause de votre maladie est effacée par votre foi présente. En conséquence, vous méritez d'être délivré de votre maladie. » C'est pour cela qu'il dit aux scribes, il est aussi facile de dire « vos péchés vous sont remis que levez-vous et marchez ». La cause cessant, l'effet doit cesser. Le cas est le même que pour un prisonnier à qui l'on viendra dire « votre crime est expié et pardonné », ce qui équivaudrait à lui dire « vous pouvez sortir de prison ». Les dix lépreux. Point 16. Un jour qu'il allait à Jérusalem et passait par les confins de la Samarie et de la Galilée, étant près d'entrer dans un village, dix lépreux vinrent au-devant de lui. Et se tenant éloignés, ils élevèrent leur voix et lui dirent « Jésus, notre Maître, ayez pitié de nous !» Lorsqu'il les eut aperçus, il leur dit « Allez vous montrer aux prêtres !» Et comme ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, retourna sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix, et vint se jeter aux pieds de Jésus, le visage contre terre en lui rendant grâce. Et celui-là était Samaritain. Alors Jésus dit, « Tous les dix n'ont-ils pas été guéris? Où sont donc les neuf autres? Il ne s'en est point trouvé qui soit revenu et qui ait rendu gloire à Dieu, sinon cet étranger. » Et il lui dit, « Levez-vous, allez, votre foi vous a sauvé. » Entre parenthèses, Saint Luc, chapitre 17, versets de 11 à 19. Fermez la parenthèse. Point 17. Les Samaritains étaient des schismatiques, comme à peu près les protestants à l'égard des catholiques, et méprisés par les juifs comme des hérétiques. Jésus, en guérissant indistinctement les Samaritains et les Juifs, donnait à la fois une leçon et un exemple de tolérance. Et en faisant ressortir que le Samaritain seul était revenu rendre gloire à Dieu, il montrait qu'il y avait en lui plus de vraie foi et de reconnaissance que chez ceux qui se disaient orthodoxes. En ajoutant « Votre foi vous a sauvé », il fait voir que Dieu regarde le fond du cœur et non la forme extérieure de l'adoration. Cependant, les autres étaient guéris. Il le fallait, pour la leçon qu'ils voulaient donner, éprouver leur ingratitude. Mais qui sait ce qui leur sera résulté, et s'ils auront bénéficié de la faveur qui leur avait été accordée? En disant aux Samaritains « Votre foi vous a sauvé », Jésus donne à entendre qu'il n'en sera pas de même des autres.
Quelques mots sur une nouveauté du mouvement Spirit francophone. La librairie Spirit francophone se propose de rassembler un maximum d'ouvrages écrits en français sur le spiritisme ou sur toute autre forme de spiritualisme se rapprochant de la philosophie spirit. Le but premier demeure la diffusion du spiritisme. La librairie imprime donc les livres de base d'Allan Kardec et des pionniers du spiritisme, mais en plus, en collaboration avec l'Encyclopédie Spirit, la librairie Spirit francophone propose de rééditer des livres rares ou disparus. C'est pourquoi sur le site de l'Encyclopédie, un sondage est proposé afin que les habitués du site puissent voter pour les livres qu'ils aimeraient voir réédités. Un nouveau sondage devrait être proposé tous les 3 mois. À la librairie Spirit francophone, et elle vous invite à aller sur son site, mais aussi celui de l'Encyclopédie Spirit à l'adresse http://www.spiritisme.net pour voter bien sûr, mais découvrir les trésors oubliés que renferme la littérature spirit francophone. Pour plus d'informations, merci de bien vouloir vous rendre sur le site de la librairie Spirit francophone à l'adresse suivante www.libsf.com. Avant la pause estivale pendant laquelle les activités des centres spirites sont habituellement réduites, nous avions 2 rendez-vous d'importance. Le 11e symposium de la francophonie à Wégimont, Belgique, du 28 au 30 mai dernier, immédiatement suivi du 3e congrès de médecine et spiritualité qui, placé sous l'égide du mouvement spirit francophone, s'est déroulé le 5 et 6 juin au Palais des Congrès à Liège. Une transmission du congrès en direct sur Internet était prévue. Malheureusement, pour des raisons techniques, il n'a pas été possible de transmettre le 3e congrès de médecine et spiritualité via notre site. Nous nous excusons pour cet inconvénient. Ce fut malgré tout des moments fort agréables et appréciés de tous. Encore merci pour votre participation. Nous vous en parlerons plus longuement lors de notre prochaine émission. En attendant de nous retrouver pour de nouveaux défis, que chacun profite de la pause estivale qui s'annonce pour se ressourcer et prendre de nouvelles résolutions au profit de chacun et de tous. Nous voici arrivés à la séquence réservée à l'agenda des activités en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg et en France. En France, à Béthune, le centre Augustin Le Sage propose une rencontre autour du thème « Comment dépasser l'humilité pour accéder à l'évolution ?» et ceci le dimanche 13 juin 2010 à 15h. Pour contact et informations complémentaires, merci de vous adresser directement sur le site de l'association à l'adresse suivante http://www.centrespiritaugustinlesage.fr. À Dunkerque, l'association Résonance Spirituelle propose une rencontre le dimanche 13 juin 2010 sur le devoir de nos anges gardiens et guides. Renseignements et inscriptions via courriel à l'adresse suivante morissette.ruchot@sfr.fr. À Douai, le chaînon Spiritualis organise à la Maison des Associations, dans la salle de la chapelle, une conférence sur le thème « Le pardon » le dimanche 20 juin 2010 à 15h. Renseignements et inscriptions via courriel à l'adresse suivante http://www.lechaînonspiritualiste.fr. Avis aux personnes et associations. Vous êtes responsable d'un groupe, d'une association ou simple particulier. Vous connaissez des personnes qui aimeraient en savoir plus sur la philosophie spirit. Vous avez un local, une pièce où vous pouvez nous en renseigner un. Si vous le souhaitez, nous pouvons venir faire une conférence de divulgation dans votre région afin de vous informer sur ce qu'est réellement la philosophie spirit et toutes les valeurs morales qu'elle renferme. Mieux encore, il n'y a pas de groupe spirit dans votre région. Vous avez envie d'en former un. Nous pouvons vous y aider en vous apportant un support didactique et humain pour la formation de celui-ci, même familial. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter par courrier ou courriel à l'adresse suivante Union Spirit Belge 43 rue Maguin à 4000 Liège ou par courriel usb@spirit.be. Cette émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Allan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser ces questions par email, de manière tout à fait anonyme, si vous le souhaitez, à l'adresse radio@spirit.be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 00 32 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors d'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez nous envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.